Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition consacrée au pouvoir populiste, phénomène majeur du paysage politique contemporain. Les exemples ne manquent pas, de l'Amérique de Trump à la Russie de Poutine, en passant par le Brexit britannique, la Turquie d'Erdogan et les extrêmes droites européennes, sans oublier l'Inde, Israël et plusieurs pays d'Amérique latine, Brésil, Venezuela. Après avoir longtemps joué le rôle de groupe de pression, les populismes sont aujourd'hui au pouvoir. Le mouvement s'est globalisé, diffusé, aussi bien dans d'anciennes démocratie que dans des démocraties récentes, voire dans des régimes plus fermés, dans l'hémisphère nord comme dans l'hémisphère sud. Sous le titre « Populisme au pouvoir, l'enjeu mondial » édité aux presses de Sciences Po se penche sur la façon dont les populistes conquièrent le pouvoir, l'exercent et le conservent. Il examine les bases sociales des pouvoirs populistes, de même que toutes les forces qui leur résistent, sachant que le populisme peut aussi n'être qu'un moment, notamment quand des institutions défendant l'état de droit sont assez robustes pour le contrecarrer. Regard avec nos invités en duplex depuis les studios de nos confrères de France Bleu à Aix-en-Provence, Thomas Posado, docteur en sciences politiques à l'Université Paris 8, chercheur associé au laboratoire Culture et Société Urbaine du Centre de Recherche Sociologique et Politique de Paris. Bonjour.
Bonjour.
En studio à Paris, Alain Diekhoff, directeur du CERI, le Centre de Recherche Internationale de Sciences Po et directeur de recherche au CNRS. Bonjour.
Bonjour.
Et Christophe Jaffrelot, directeur de recherche CNRS au CERI. Bonjour.
Bonjour.
Populisme, c'est un phénomène majeur du paysage politique contemporain, je le disais en introduction, phénomène global qui n'est pas qu'européen. Qu'est-il réellement ? A-t-on tout dit, Alain Diekhoff, lorsque l'on parle de mode de mobilisation et de protestation contre une souffrance sociale, économique, politique, mouvement contestataire et anti-système, réaction aussi au libéralisme et à la mondialisation ?
Alors c'est vrai que le populisme, historiquement, est une forme de protestation, il n'y a pas de doute, et il proteste contre des régimes qui sont souvent démocratiques, mais dont on conteste le mode de fonctionnement pour diverses raisons. Mais ce qui nous intéressait en fait dans ce livre, c'est surtout en effet la façon dont ces populismes parviennent au pouvoir et comment ensuite ils l'exercent. Alors peut-être clarification un petit peu en termes de définition, à laquelle finalement tous les auteurs qui se sont intéressés au populisme se sont livrés, mais je crois qu'elle est importante. C'est quoi le populisme, pour faire vite? Moi j'ai tendance à utiliser une formule assez simple qui est la suivante. De la même façon que l'autoritarisme émerge parce qu'il y a abus d'autorité, il y a populisme lorsqu'on use et abuse du mot peuple. En fait, c'est ça pour moi la base. Et user, abuser du mot peuple, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait glorifier de façon permanente la souveraineté du peuple, tout en dénonçant les élites et en évoquant une sorte de vérité du peuple. Cette vérité du peuple étant soit, disons, ethno-nationale, c'est-à-dire fondée sur l'idée d'un peuple-communauté, ça c'est la version de droite du populisme, ou alors sociale, ça c'est la version de gauche du populisme, c'est-à-dire que le vrai peuple, bah, c'est quoi ? C'est comme on disait du temps du marxisme, les classes laborieuses, les classes travailleuses, etc., là aussi contre les élites. Voilà, je pense que, en résumé un petit peu, pour aller à l'essentiel, c'est ça, le populisme.
Christophe Jaffrelot.
Oui, c'est effectivement un style politique, plus qu'une idéologie. Et c'est un style politique qui va jouer sur cette opposition entre le peuple pur et les élites corrompues. Alors, corrompues financièrement, on le dit souvent, mais corrompues moralement aussi. Il y a un moralisme derrière le populisme. On est en train de défendre les opprimés, les victimes de l'establishment. Le mot a d'ailleurs été traduit en français par Jean-Marie Le Pen, l'établissement, comme si c'était traduisible. Ça, c'est le point clé, effectivement. Alors, après ce style politique, il navigue de la gauche à la droite et retour en reposant surtout sur des émotions. Ce rejet des élites, il va se conjuguer à l'ethno-nationalisme, effectivement. Et là, les émotions, c'est la peur de l'autre. Et la colère, les deux sont souvent associés, puisque cet autre, ce migrant, les multinationales, Bruxelles, tous ceux qui sont des empêcheurs de défendre le peuple en rond, si j'ose dire, eh bien, on va jouer sur la peur qu'ils suscitent et la colère qu'on a, qu'on ressent et qu'on exploite face à ces acteurs, disons, extérieurs ou même intérieurs. Et puis, il y a un troisième élément très important dans ce populisme, c'est que pratiquement à chaque fois, un homme incarne le mouvement.
Une très forte personnalisation
du
pouvoir.
Oui, on n'échappe pas à ça. Il y a bien sûr des partis qui se disent populistes, hein, mais la plupart du temps, les partis sont créés par des hommes, où les hommes finissent par en prendre le contrôle. Et c'est pour ça que notre livre est aussi une galerie de portraits, parce qu'on a finalement, pour reprendre les termes de Max Weber, un sultanisme en puissance à chaque fois. Et donc cet homme, il est celui qui va se relier à ce peuple le plus directement possible, et nous reviendrons sur ce que les médias sociaux représentent de ce point de vue-là comme amplificateur du phénomène. Et cela débouche sur de l'autoritarisme dans la plupart des cas. Et donc, quand on regarde les populistes au pouvoir, on voit qu'ils ne peuvent prendre le pouvoir que en démocratie. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas de la Chine ou de pays où il n'y a pas de compétition électorale. Il faut gagner les suffrages sur le mode populisme. Mais une fois qu'ils sont au pouvoir, la dérive autoritaire est quasiment systématique.
Quasiment systématique. Oui, Alain Dekoff, après ça, on passera la parole à Thomas Posado.
Oui, je pense que là, il y a simplement une différence. C'est vrai que la tentation autoritarisme, elle est présente dans le populisme. En même temps, il faut bien voir que il y a des effets de contraintes structurelles qui sont fortes. Si on est dans un type de régime présidentiel, ce qui est le cas par exemple en Turquie, c'est vrai que le président, à partir de ce moment-là, et il l'a fait de façon très très claire, Erdogan, rentre dans une logique autoritaire. Finalement, la grande assemblée turque, le parlement, n'est plus qu'une chambre d'enregistrement.
C'est venu avec l'exercice du pouvoir pour la Turquie.
Absolument, absolument. Et où il a une majorité absolue, il n'y a aucun problème. Je dirais c'est différent dans des systèmes comme l'Autriche par exemple ou même l'Italie de ce point de vue-là, où des populistes peuvent se retrouver au pouvoir en coalition cette fois-ci, ils sont pas tout seuls au pouvoir, et là leur survie au pouvoir n'est absolument pas garantie, parce que le système continue quand même à fonctionner démocratiquement. On l'a vu en Autriche, où finalement ils sont sortis du gouvernement. On ne sait pas trop ce que ça va donner après les dernières élections qui ont eu lieu en septembre. On a bien vu aussi en Italie que, pour d'autres raisons, parce qu'il y a eu des reconfigurations internes, ils sont sortis du gouvernement, de l'alliance avec le mouvement 5 étoiles dans laquelle la Ligue se trouvait. Et donc ils se retrouvent aujourd'hui dans l'opposition. Et donc ils ont perdu le pouvoir. Ça, c'est quand même, en ce sens-là, plutôt une bonne nouvelle aussi, c'est-à-dire que si le système continue à fonctionner démocratiquement, finalement, les populistes, c'est un peu comme une autre force politique, c'est-à-dire toute comparaison évidemment ne vaut pas raison, mais c'est un petit peu comme les communistes qui pouvaient soutenir des mouvements, des partis socialistes en particulier en France, et qui après pouvaient se retrouver dans l'opposition. Ils jouent un peu le même rôle dans ce type de système. Ils ne parviennent pas à monopoliser le pouvoir et donc aller dans une dérive de type autoritaire, même si quelque part ça peut être leur tentation, mais ils ne peuvent pas le faire.
Donc il y a une véritable fluidité finalement, et un côté peut-être aussi cyclique. Alors on parlera bien sûr de l'Europe. J'ai donné la parole à Thomas Posado simplement pour rebondir sur le fait qu'il y a une variété de populisme dans le monde. Vous l'avez dit, populisme de gauche, mais les populismes de droite sont tout de même dominants. En tout cas, à la lecture de ce que vous dites dans l'ouvrage. Il y a aussi un populisme assumé dès la prise de pouvoir. C'est la rupture avec ce qu'on appelle l'ancien régime, et puis le populisme qui se développe avec l'exercice du pouvoir. Thomas Posado, le cas du populisme de gauche, c'est le Venezuela avec Hugo Chavez et aujourd'hui Nicolas Maduro, avec là aussi une extrême personnalisation du pouvoir.
Complètement une extrême personnalisation du pouvoir. En Amérique latine, on a une forme qui est assez ancienne et assez originale de populisme, qui est sans doute l'exemple qui est reconnu dans toutes les définitions de populisme, des régimes nationaux populaires, c'est-à-dire peut-être plus homogènes idéologiquement que les exemples dont on vient de parler, c'est-à-dire des gouvernements qui arrivent au pouvoir plutôt avec mobilisation des classes populaires, pas seulement dans les élites, et avec un discours de mobilisation contre une puissance impériale, souvent dans des périodes où il y a des marges de manœuvre, où il y a un haut cours des matières premières, donc des économies qui sont très dépendantes des matières premières, et qui permettent une certaine redistribution des richesses, tout en maintenant la légitimité, en renforçant la légitimité de ce leader charismatique. Et ça, c'est une formule qui est assez ancienne en Amérique latine. C'est des exemples de Perón, de Cárdenas, de Vargas, avec des variantes un peu plus à gauche, un peu plus à droite, mais une configuration de pouvoir et un message idéologique qui est beaucoup plus homogène que ce qu'on peut voir dans le monde, qui est plus qu'un style de pouvoir, et qui effectivement a ressurgi du coup dans les années 2000 avec le cycle de gouvernement progressiste, avec donc Chavez au Venezuela, Correa en Équateur, Morales en Bolivie, et dans une moindre mesure Kirchner en Argentine et Lula au Brésil. Aujourd'hui, on est dans une situation un petit peu plus difficile, puisqu'on a des situations de crise économique, où par exemple le leadership charismatique de Maduro, il a questionné, parce que leadership, oui, pratique de plus en plus autoritaire, oui, mais pas vraiment de légitimité charismatique, pas vraiment d'adhésion massive et de soutien au-delà du vote de la population. La formule de ces régimes nationaux populaires en Amérique latine, c'est qu'ils arrivent à susciter l'enthousiasme de la population et arrivent à ce que la population se lève pour défendre le leader en place. Enfin voilà, ça a été le cas de Perón qui a été réinstallé par les syndicats en Argentine, ou de Chavez qui a réussi à dépasser un coup d'État de cette manière-là, ou même chose pour Morales, qui a réussi en 2006-2008 à dépasser des tentatives de sécession de cette manière-là. Aujourd'hui, les situations, elles sont assez différentes. C'est-à-dire que ce cycle de gouvernement progressiste, à rebours de ce qu'on pouvait entendre, il était plutôt dans une optique de redémocratisation, d'alternance véritable, de revitalisation de la démocratie. Aujourd'hui, par cette installation au pouvoir, effectivement, on a une vague autoritaire qui touche donc des gouvernements qui viennent de cette vague de gouvernements progressistes, nationaux, populaires, ou de gouvernements qui n'en sont pas issus. Le cas, par exemple, de la répression de ce qui se passe au Chili ou en Équateur.
Alors, quelques mots tout de même, Thomas Posado, je rebondis. Effectivement, au cours du XXe siècle, l'Amérique latine a eu, plusieurs pays d'Amérique latine ont eu une expérience populiste. Qu'est-ce que l'on peut dire du terrain propice à ce populisme en Amérique latine? Est-ce que c'est la stagnation économique, une croissance aujourd'hui de 0,2%, ce qui fait que l'Amérique latine se classe bonne dernière, finalement, dans les continents à l'échelle mondiale?
Alors, paradoxalement, je dirais plus que, enfin, les populismes arrivent à s'enraciner en Amérique latine dans des périodes d'abondance économique, c'est-à-dire dans des périodes où on a des classes populaires urbaines qui sont extrêmement nombreuses en Amérique latine et des élites économiques dont certains gouvernements nationaux populaires peuvent arriver à avoir le soutien en les mobilisant contre les États-Unis, par exemple, ou contre un ennemi extérieur. Et ça, ce fonctionnement arrive à perdurer dans des périodes où il y a des marges de manœuvre, où il y a une rente à redistribuer qui permet d'avoir à la fois un soutien massif de ces classes populaires et ne pas avoir une opposition qui est des billes pour pouvoir renverser le gouvernement en place. Aujourd'hui, même les gouvernements qui ont le style populiste, Jair Bolsonaro par exemple, est complètement dans ce style-là. Déjà, Jair Bolsonaro, il est dans un style qui est très peu national, qui est d'une subordination aux États-Unis, contrairement à ce qu'on pouvait voir des autres gouvernements précédents, et très peu populaire, parce que si on regarde la propension des votes, c'est plus on est riche, plus on a une propension à aller voter Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, il est peut-être plus proche des extrêmes droites européennes que de cette filiation latino-américaine. Et c'est des gouvernements qui, de fait, dans une période de crise, comme vous le mentionnez, cette stagnation économique latino-américaine, ont beaucoup de mal à perdurer au pouvoir et a beaucoup de mal à avoir une popularité. Parce que, de fait, quand vous avez très peu de choses à redistribuer, votre légitimité, elle reste extrêmement faible auprès de la population.
Alain Diakhoff, pour parler du terrain fertile au populisme en Amérique latine, qu'est-ce que l'on peut dire pour l'Europe aujourd'hui, à la fois la vieille Europe occidentale et l'Europe orientale?
Moi, je crois que le populisme en Europe, il prospère sur une triple crise. Une crise politique, c'est-à-dire que, à l'évidence, il y a une crise de la démocratie représentative, il y a une contestation frontale, mais on souligne ses limites. Et on souligne le fait que le parlementarisme n'est plus peut-être plus suffisamment adapté à la façon dont fonctionnent les sociétés modernes. C'est une critique qui est en partie d'ailleurs audible. Je pense qu'en effet, ça devrait nous inviter à réfléchir davantage parallèlement à la démocratie parlementaire, à des démocraties, à des modes de participation démocratique plus participatives. Ça, c'est la première chose, première crise. La seconde, c'est évidemment aussi une crise économique. Qui on le voit bien, une bonne partie de l'électorat, en tous les cas des partis nationaux populistes, viennent de catégories sociales pauvres, défavorisées, de classes moyennes inférieures. Même si, et ça c'est aussi important, il faut un peu se départir d'une vision trop unilatérale. On voit bien que des pays dans lesquels la situation, en tous les cas au niveau macroéconomique, est bonne, peuvent tout à fait adhérer massivement à un discours populiste. Je pense par exemple à la Pologne. La Pologne a depuis des années une croissance économique absolument formidable que la France pourrait lui envier de ce point de vue-là. Il n'empêche que le parti Droit et Justice est au pouvoir depuis pas mal d'années. Il a une majorité absolue au Parlement. Ça veut dire qu'il y a aussi autre chose qui joue. Et ça, je pense que c'est la troisième crise. Et de ce point de vue-là, dans la dimension polonaise, elle joue un rôle. C'est la dimension culturelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous fait tenir ensemble? Et ça, les populistes apportent à leur façon une réponse qu'on peut contester, certes, mais qui, par rapport à une démocratie, disons, libérale, disant que, dans le fond, c'est le règne de l'individu, voilà, c'est le règne de l'individu qui est promu dans la démocratie libérale, dans le fond, qu'est-ce qui, malgré ça, continue à faire de nous une communauté nationale différente, la française, l'allemande, etc., etc. À ça, finalement, les libéraux n'ont pas vraiment de réponse. Les populistes leur donnent des réponses. Et ça, c'est le défi que j'appelle, en effet, culturel. Et se pose aussi, à l'évidence, la question migratoire, qui, qu'on le veuille ou non, est une question. On ne peut pas simplement l'évacuer. Et là, les populistes essayent d'apporter leur réponse, et c'est quelque chose qui leur donne aussi du grain à moudre. Donc, selon les cas, évidemment, les trois crises ne sont pas toujours convergentes au même moment et dans le même pays. Mais ils savent utiliser l'une ou l'autre de ces crises selon les contextes pour continuer à prospérer.
Christophe Jaffrelot.
Pour continuer dans la même veine, si on cherche des causes au populisme, on va tomber sur le pluriel des populismes précisément. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir comment un phénomène peut avoir une unité. C'est un style politique qui fait recette. Et d'ailleurs, il y a sans doute derrière des marchands de marketing politique qui font passer les recettes d'un pays à l'autre. Il y a à coup sûr des entrepreneurs en populisme. Donc c'est un style.
On l'a vu avec Steve Bannon, notamment, qui était international, conseiller de Donald Trump.
Voilà. Et Cambridge Analytica et APCO Worldwide et tous ces vendeurs de recettes politiques sont certainement utilisés par des populistes très différents les uns des autres. Il y a une variété de populistes. Et du coup, il y a une variété de causes au populisme, on aura beaucoup de mal à trouver une explication. La plus probable, sans doute, la plus commune, c'est le sentiment d'un déclassement. Le sentiment d'un risque, en tout cas, de déclassement. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que parfois, même quand la prospérité est encore au rendez-vous, même quand en fait on n'a pas perdu, mais qu'on a peur de perdre, alors on peut s'en remettre à
les
populistes.
On retrouve les émotions que vous évoquez.
Et on retrouve les émotions, parce qu'ils savent parfaitement les manipuler. Un exemple très intéressant, c'est la notion de territoire en perdition. Ce sont souvent des zones qui ne sont pas dépourvues de bourgeois, mais les bourgeois appartenant à des territoires en perdition vont avoir tendance à basculer du côté populiste. On a vu ça aux États-Unis, on a vu ça en Grande-Bretagne, parce que le sentiment de perte, d'abandon, en quelque sorte, est très fort. Du coup, eh bien, on a ce sentiment que ce n'est pas uniquement du socio-économique dont il est question, mais du ressenti. Et la peur du déclassement, on l'a vu au Brésil, quand Lula a fait peur aux possédants et Bolsonaro est une réaction à cette gauche-là. On l'a vu aux États-Unis quand Obama a donné l'impression que les Noirs allaient enfin émerger sur la scène politique et Trump est une réaction à cette montée de soi-disant une bourgeoisie noire. Et puis on le voit en Inde où Modi est une réaction à la montée des basses castes. Donc ce sont des gens qui ont peur de perdre à un changement socio-économique sans perdre encore vraiment. Mais les émotions, en effet, en tout cas la subjectivité, jouent un rôle considérable.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Christophe Jaffrelot, Thomas Posado et Alain Diakhoff après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur les pouvoirs populistes. Nous retrouvons nos invités en duplex depuis les studios de nos confrères de France Bleu à Aix-en-Provence. Thomas Posado, docteur en sciences politiques à l'Université Paris 8, chercheur associé au laboratoire culture et société urbaine du Centre de recherche sociologique et politique de Paris. Alain Diekhoff, directeur du CERI, le Centre de recherche international de Sciences Po et directeur de recherche CNRS. Et Christophe Jaffrelot, directeur de recherche CNRS au CERI. On a terminé la première partie de l'émission avec vous, Christophe Jaffrelot. Vous évoquiez la variété des causes de populisme, un sentiment de déclassement, des territoires en perdition. Thomas Posado, qu'est-ce qui finalement pourrait définir ou quelles sont les diverses variétés des populismes aujourd'hui en Amérique latine ?
Alors aujourd'hui en Amérique latine, si on prend le terme de populisme, le style de Jair Bolsonaro entre complètement dedans. Les autres formes sont relativement en déclin. La forme nationale populaire, donc issue d'un discours nationaliste anti-impérialiste, issue de ce cycle de gouvernement progressiste, il est plutôt en déclin. Nicolas Maduro se maintient au pouvoir, mais dans quelles conditions Evo Morales affronte des contestations électorales sans précédent par rapport aux conditions de ses élections, de ses précédents mandats qui étaient un parcours de santé. Donc on a différentes formes. Après, ce qui est clair, ce qui rejoint avec les autres cas ailleurs dans le monde, c'est les conditions d'accès où effectivement, pour qu'un outsider arrive au pouvoir, arrive à remettre en cause les partis traditionnels, le système politique traditionnel, il faut souvent une crise politique institutionnelle, économique, où le leader charismatique propose un débouché qui soit plus à gauche ou plus à droite. Chavez, quand il est élu en 1998, il arrive dans une crise économique extrêmement grave. Et la plupart de ces gouvernements progressistes arrivent dans un moment où il y a une crise économique extrêmement grave. Jair Bolsonaro, lui, en proposant un débouché très très à droite, arrive lui aussi dans un moment de crise institutionnelle extrêmement grave où on a eu un coup d'État parlementaire contre Dilma Rousseff, où de fait il y a une très forte hostilité au PT, où il y a des affaires de corruption qui se sont multipliées, qui ont été instrumentalisées par le pouvoir politique et judiciaire. Donc on a cette situation de crise à la fois économique et politique qui permettent l'arrivée d'un outsider au pouvoir, ce qui ne serait pas possible évidemment dans une situation où le leader est populaire et où l'alternance politique classique peut se faire. C'est ce qui permet une arriver au pouvoir. Après, ce qui permet un maintien au pouvoir, c'est est-ce que ces personnes-là ont des marges de manœuvre ? Et aujourd'hui, quand on voit par exemple l'élection argentine, où on a le parti péroniste, Alberto Fernandez, qui a reconquéré le pouvoir, il n'est pas du tout dans l'optique nationale populaire que pouvait l'être Cristina Kirchner quelques années auparavant. Il est dans une optique dépolarisante. Son coalition, c'était Frente de Todos. Donc, c'est-à-dire essayer de regrouper tout le monde parce qu'il sait qu'il ne pourra pas redistribuer et qu'il a besoin d'avoir des soutiens de partout. Et donc, du coup, la rhétorique polarisante peut être une menace pour son maintien au pouvoir, même si évidemment il y a bipolarité qui est irritée de décennies de polarisation entre péronistes et non-péronistes.
Alors juste quelques mots peut-être pour l'élection de Jair Bolsonaro au Brésil. Il est vrai aussi que ce populiste est arrivé au pouvoir parce que finalement Lula n'a pas non plus pu se présenter, lui qui est actuellement en prison. Thomas Posado, quelle lecture faire à travers ce prisme peut-être du populisme en Amérique latine concernant les événements qui ont cours au Chili?
Le Chili, c'est un cas intéressant parce que c'est pas un pays qui est dit dans le schéma populiste et où on voit le même dynamique malheureusement de dédémocratisation qu'on retrouve dans la plupart des pays dits populistes qu'on évoque depuis le début de l'émission. On a un chef d'État issu de la droite classique qui fait une alternance avec la gauche classique et où ça fait plusieurs décennies qu'il y a une alternance gauche-droite de manière extrêmement classique et où d'un coup on a un surgissement populaire vis-à-vis d'inégalités assez fortes, d'un système politique sclérosé et où de fait on a une répression assez brutale, on a une vingtaine de morts aujourd'hui, cas de torture qui sont avérés, etc. Mais dans un système qui n'est pas populiste et qui en adopte en fait les codes de dédémocratisation qu'on peut voir ailleurs dans le globe. Donc voilà, c'est aussi voir cette dynamique de dédémocratisation qui touche y compris des gouvernements qui n'ont pas ce style politique-là.
Alain Diekhoff, l'Europe, les droites populistes qui ont occupé une place centrale durant la campagne des dernières européennes au printemps 2019, elles n'ont enregistré qu'une progression somme toute limitée. Est-ce qu'on peut parler d'essoufflement ?
Il y a un certain reflux qui est évidemment variable selon les endroits, mais je pense qu'il faut faire attention de pas le surinterpréter. Mmh. Il est en partie conjoncturel parce que on voit bien, par exemple, dans le cas italien, que ils ont eu un très très bon score aux élections européennes, et leur disparition du pouvoir pour le moment à Rome est essentiellement le résultat de combinaisons parlementaires et d'un changement d'alliance du mouvement 5 étoiles qui est venu, en fait, avec le Parti social-démocrate et de cette façon a éjecté la Ligue. Mais ça ne nous dit rien et les sondages continuent à donner un soutien très important quand même à Salvini. Si les élections avaient lieu demain, je ne suis pas sûr que Salvini ferait un mauvais score du tout. Mmh. Donc il faut être assez attentif à cela. Il y a vraiment des éléments conjoncturels dont il faut tenir compte. Bon, ce que ça montre aussi, c'est qu'évidemment il y a des forces qui se structurent face à ces populismes. Le succès que, par exemple, les partis dans beaucoup de pays, y compris par exemple en Autriche, que le Parti Vert a, c'est aussi quelque part une force antipopuliste. Mmh. Donc il y a des opposants dans les systèmes démocratiques ouverts, il y a des opposants, et donc c'est aussi en ce sens-là une bonne nouvelle. Moi, ce sur quoi je voudrais insister finalement, parce que ça me paraît un cas de figure que l'on voit dans un certain nombre de pays, en particulier en Europe de l'Ouest, c'est que quand les populistes sont arrivés au pouvoir dans des coalitions, ce qui était le cas par exemple en Autriche, ce qui était le cas au Danemark, c'est un petit pays certes, mais qui est très intéressant à étudier parce qu'on voit que le populisme est présent depuis longtemps en réalité. Ils ont souvent été associés, en tous les cas en soutenant sans participation, les forces conservatrices. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que même quand ils sont plus au pouvoir, ce qui est le cas désormais aujourd'hui, puisqu'ils ont, c'est le Parti social-démocrate qui a remporté les élections, on voit que tout le discours qu'ils tiennent depuis une vingtaine d'années, en particulier sur la question migratoire, il a ruisselé dans l'ensemble du champ politique. Non seulement la droite conservatrice, mais même le Parti social-démocrate reprend certaines des mesures pour contrôler davantage l'immigration.
Les partis traditionnels ont été obligés de réagir, c'est cela que j'entends, Alain Diakov.
Pas seulement réagir, c'est-à-dire qu'ils ont repris à leur compte une partie du discours et des mesures que certains partis populistes ont mis en avant. C'est ça que je trouve quelque part assez intéressant dans, en termes d'analyse politique, c'est que ils sont parvenus à changer un petit peu le cadre général qui existait il y a 20 ans. Mmh. Et ça, je crois que c'est quelque chose que l'on voit un petit peu partout. C'est-à-dire ça fait bouger les lignes. Mmh. Même les partis, là c'est le cas du Parti social-démocrate danois, donc c'est quand même un parti dans ses structures d'origine de gauche, eh bien il va lui-même changer son discours sur l'immigration pour le durcir. Donc là, il y a quelque chose qui nous dit de significatif dans les évolutions politiques en profondeur dans ces pays.
Alors, durcissement sur certaines thématiques et puis assouplissement sur d'autres. Je pense à l'euroscepticisme. Finalement, le Brexit a beaucoup rafraîchi
Alors ça, c'est une évolution intéressante dans l'autre sens. C'est-à-dire que le discours des populistes de droite, qui est en effet était un discours férocement, je dirais, anti-européen, voire anti-euro. Bon, on se souvient de Marine Le Pen qui, bon, même si elle s'est un peu pris les pieds dans le tapis, voulait quand même plus ou moins revenir au franc, bah, tout ça, on l'entend plus aujourd'hui. C'est-à-dire que ça, c'est en effet une bonne nouvelle, c'est-à-dire que le cadre européen, même s'ils veulent le changer de l'intérieur, ça, il faut pas se méprendre sur ça, ils ne l'acceptent pas en tant que tel. Ils sont contre, évidemment, la logique de l'union dans, telle qu'elle est réaffirmée dans le préambule, c'est-à-dire une union de plus en plus étroite des peuples. Ça, ils n'en veulent pas. Mais ils acceptent le cadre aujourd'hui. Ils veulent, ceux qui sont dans l'euro veulent rester dans l'euro, et ceux qui sont dans l'Union européenne, à part quelques groupes très marginaux, ils ne la contestent plus en tant que telle. Mmh. Ça, c'est une évolution, en ce sens-là, on peut dire positive, oui.
Christophe Jaffrelot, en ce qui concerne l'Asie, vous traitez dans l'ouvrage « Populisme au pouvoir » un certain nombre de pays. Il y a la Thaïlande, le Pakistan, pas tous traités, mais évoqués, le Sri Lanka, les Philippines et l'Inde. Qu'est-ce qui fait finalement l'unité des mouvements populistes dans tous ces pays que je viens d'évoquer ? Et on passera un petit peu de temps en particulier sur l'Inde.
L'unité, c'est le style politique à nouveau. On a dans chacun de ces pays un leader, que ce soit Imran Khan, que ce soit Rajapakse, que ce soit Narendra Modi, que ce soit Duterte, est en relation directe avec un peuple contre un establishment, même si l'establishment en question les soutient en sous-main. Et vous avez un deuxième facteur commun, c'est qu'ils ne sont pas leurs propres maîtres à 100%. Il y a deux choses qu'on n'a pas évoquées encore, c'est le rôle des milieux d'affaires. Les milieux d'affaires sont omniprésents derrière nombre de populistes. Et quand on parle des kits que les marchands de techniques électorales vendent, eh bien ça coûte très cher. Les hologrammes et compagnie, ça coûte très cher. Donc il y a souvent des milieux d'affaires qui soutiennent, dans bien des cas. Quand ils ne sont pas eux-mêmes, d'ailleurs, des milieux d'affaires, Thaksin, en Thaïlande, était un homme d'affaires qui a pris de la tangente politique. Ça, c'est un point commun, très souvent. Ils ne sont pas leurs propres maîtres aussi, des fois, lorsque ce sont les militaires qui mettent en avant des hommes qu'on peut espérer charismatiques pour avoir la façade de démocratie que garde le populisme tout en tirant les ficelles en coulisses. Et c'est le cas pakistanais. Imran Khan est la créature des militaires, mais il a gagné des élections compétitives, concurrentielles. On n'est pas dans un régime fermé de ce point de vue-là, grâce à son style populiste, qui a été d'ailleurs, on peut dire, national populiste. Dans les quatre cas qu'on évoque là, de toute façon, on est dans du national populisme. Aucun des populismes d'Asie n'est de gauche. Il est à chaque fois ou bien affairiste, donc néolibéral Domenica, ou bien autoritaire, c'est le cas pakistanais par excellence, ou bien xénophobe. Et dans la plupart des cas, c'est quand même la xénophobie qui fait le point commun. On mobilise le peuple des fils du sol contre les minorités, voire les migrants. Et finalement, les populistes de gauche, c'était les années 70. C'était Indira Gandhi, Bandara Naike, Bhutto. Ça, c'est du passé. Ça ne fait plus recette.
Alors, xénophobie, l'Inde.
Oui, parce que là, on a effectivement un cas typique qui rappelle d'ailleurs celui dont traite Élise Massicard dans le livre de la Turquie, parce que on a certes des hommes charismatiques, ou en tout cas qui ont appris à être charismatiques, parce qu'ils ont été formés là aussi, mais qui viennent d'organisations très anciennes et de masse. L'AKP d'un côté, le BJP de l'autre, ce sont des organisations qui sont vieilles de plusieurs années et qui ont un réseau très étendu. Donc, un homme qui va pouvoir prendre appui sur un mouvement nationaliste, xénophobe, anti-musulman, anti-chrétien dans le cas de Narendra Modi et de son BJP, et qui va gagner les élections, on l'a vu au printemps dernier, sur ce thème à l'exclusion de tout autre. On ne parle plus de développement, on ne parle plus de croissance, on ne parle plus d'économie, on ne parle plus de société. On parle de cette peur de l'autre, alors l'autre, le musulman, mais évidemment, d'ailleurs, le musulman, il y a le pakistanais, enfin, il y a le Pakistan tout court, d'ailleurs. Et donc, l'exacerbation des tensions internes et externes favorise cette réélection, puisque dans le cas de Modi, c'est une réélection, plus, et ça, on ne l'a pas suffisamment souligné, la débauche de moyens de communication pour saturer l'espace public. Ces élections, en mai 2019, ont coûté 7 milliards de dollars. C'est la première fois qu'on dépense autant pour une élection dans une démocratie. Le record était détenu par les Américains, bien sûr, avec 6 milliards de dollars. Mais là, on a été plus loin. Pourquoi ? Eh bien, pour que le message de peur, d'exclusion de l'autre soit vraiment omniprésent dans les villages comme dans les villes, eh bien, il faut multiplier les réseaux de communication. Ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par les hologrammes, ça passe par une chaîne de télévision dédiée uniquement à ça pour promouvoir l'homme. Et c'est ça la troisième explication du succès, c'est l'homme. C'est cette capacité incroyable, cette alchimie qu'on n'avait jamais vue entre un homme et son peuple. Et là, il y a quand même quelque chose de très propre aux populistes en général. Le populiste réussit à apparaître comme l'un des nôtres. Il parle comme nous. Il est irrévérencieux. Il faut voir le vocabulaire de ces gens. C'est de terre très en aux Philippines, c'est encore pire. On est dans de la vulgarité systématique, dans de la provocation systématique. Donc, il parle comme nous. Il est l'un des nôtres. Il tape sur la ceinture. Et le fait qu'il vienne de l'establishment, du coup, disparaît parce que son style de communication est populaire. Et en même temps, c'est un héros. En même temps, on le divinise quasiment. En tout cas, dans le cas indien, on assimile Modi à des avatars de Vishnu de manière quasiment routinière maintenant. Donc il est victime d'ailleurs, et ça c'est très important, la victimisation du leader populiste, c'est très important. Aujourd'hui, Trump se dit victime des médias, de ces liberals. Ils sont toujours perçus comme des victimes, ils se vivent en victimes, comme précisément le peuple qui souffre. Ou qui craint de souffrir. On retrouve le risque de déclassement. Ça, c'est ce qui explique que le BJP de Modi remporte les élections haut la main en mai dernier et que depuis, ils perdent quasiment les élections régionales parce que c'est pas le parti qui a été élu, c'est l'homme. Ça, c'est devenu d'ailleurs la faiblesse des populistes. C'est que comment est-ce qu'on remplace le leader populiste lorsqu'il passe l'arme à gauche, ça finit par arriver. Et d'ailleurs, la séquence Chavez-Maduro nous montre que rien n'est plus compliqué que de remplacer remplacer un populiste par un héritier du populisme.
En tout cas, milieux d'affaires qui sont présents derrière les populistes, c'est aussi le cas pour Jair Bolsonaro au Brésil, vous allez me le confirmer, Thomas Posado. Et effectivement, Christophe Laffolo, vous parliez de Donald Trump. Donald Trump est un populiste, Alain Dukoff.
Oui, indéniablement, je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je dirais, une de leurs forces aussi, il faut le reconnaître, c'est qu'ils sont souvent le candidat des pauvres et le président des riches. Ça peut paraître paradoxal, mais je dirais que c'est indéniablement une de leurs forces. Trump, c'est vraiment l'incarnation la plus absolue qu'on ait de ce phénomène-là, parce que c'est évident, toutes les mesures qu'il a prises n'étaient pas spécialement destinées à une partie de la population qui a voté pour lui, hein, dans les grands états, Detroit et compagnie, du Michigan. C'est pas ça du tout. Pourtant, il continue à avoir du soutien dans ces milieux-là, parce qu'il y a autre chose. C'est pour ça qu'il faut pas avoir une lecture uniquement économiciste. Et ça me paraît très important. Il donne autre chose. Il donne en effet ce style, il donne ce côté finalement, je casse la baraque, quoi. Je casse la baraque, je remets en cause des institutions qui fonctionnent plus de mon point de vue, bon, ce qui est évidemment contestable, parce qu'on voit qu'aux États-Unis, par ailleurs, elles fonctionnent très bien, puisqu'il y a quand même toute la logique d'impeachment qui, quelque part, limite la capacité populiste de Trump. Mais il y a ça, il continue à avoir un soutien dans une partie de la population qui a voté pour lui.
C'est aussi ce qu'on retrouve, Thomas Posado, avec Jair Bolsonaro, candidat des pauvres, président des riches.
Plutôt non. Enfin, Jair Bolsonaro, il a été élu plutôt par les riches. Alors évidemment, quand on fait 55% des voix, il y a une partie des pauvres qui sont allés voter. Hein. Mais disons que la propension à aller voter, c'est plus on est riche, plus on est blanc, plus on a une propension à aller voter pour Jair Bolsonaro, qui s'est inscrit dans cette revanche contre le PT et contre ces 15 années de PT au pouvoir. Donc une revanche contre les pauvres qui avaient appuyé ce parti au pouvoir. Depuis le début de l'émission, on parle de l'unité de ces styles politiques où il y a effectivement, de véritables convergences en termes de style politique, en termes de vulgarité, en termes de leadership charismatique. Après, il y a une véritable différence en termes de culture politique et de contenu dans cette chose-là. Les gouvernements qui avaient des aspects nationaux populaires, du coup, les gouvernements plutôt liés à la gauche en Amérique latine, sont assez peu liés dans ces circulations qu'il peut y avoir entre les différents gouvernements de droite et d'extrême droite revendiquant le populisme ou caractérisés de populistes aujourd'hui. Aujourd'hui, entre Jair Bolsonaro, Donald Trump, Viktor Orban, Benjamin Netanyahou, il y a des véritables convergences, il y a des véritables circulations. Steve Bannon vient donner ses techniques de communication à Jair Bolsonaro. Aux États-Unis, on a plutôt utilisé les fake news sur Facebook. Au Brésil, on a plutôt utilisé les fake news sur WhatsApp. Ça change d'entreprise, mais ça ne change pas le contenu. Et pour le coup, la vraie internationale brune qui se fonde, c'est lié à cette culture politique d'extrême droite, davantage qu'un style populiste, parce que les cultures politiques de gauche, par exemple, un gouvernement comme Evo Morales, qui est au pouvoir maintenant depuis 2005, assez étranger à ces types de circulation, parce qu'il n'en partage pas le contenu, parce qu'il a une politique qui est plutôt centrée sur les indigènes, quand Jair Bolsonaro va avoir centré son discours dans la lutte contre les indigènes, un peu sur le modèle de ce que pouvait dire Alain Dukoff ou Christophe Jaffrelo sur cette xénophobie, ce rejet des minorités, et où du coup on voit des cultures politiques extrêmement différentes qui amènent à des gouvernements assez différents, mais pour le coup les différents gouvernements d'extrême droite, les différents populismes d'extrême droite, pour le coup ont des vraies convergences à la fois dans leur mode de gouvernement et à la fois dans leur mode d'accession au pouvoir et dans leur manière de convaincre par les méthodes de communication moderne la population. Et peut-être des nuances, l'influence qu'on disait au début de classe riche qui se rallie à Jair Bolsonaro, à un discours extrêmement libéral, ça a peu à voir avec ce que dit Marine Le Pen, qui a une base sociale évidemment beaucoup plus hétérogène et qui du coup a un interventionnisme étatique qui est promu et qui est défendu. Alors que Jair Bolsonaro s'est fait élire avec un homme à tout faire économiquement, qui était son représentant économie et qui est un homme extrêmement libéral formé à l'école de Chicago.
Christophe Jaffrelot, très rapidement.
Très rapidement, juste un mot pour aller dans le même sens que Thomas. Il y a quand même derrière cette internationale populiste de droite, quelque chose qu'on n'a pas évoqué encore, qui est l'islamophobie. Et il y a quand même un ciment qui est très fort et dont on voit la preuve cette semaine, avec la visite de 27 députés européens au Cachemire indien, invités par Narendra Modi, et tous issus des rangs de l'extrême droite européenne. Comme s'il fallait bien montrer qu'on avait ce point commun, à savoir la peur de l'autre, en Europe comme en Inde, qui est le musulman.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Christophe Jaffrelot, je vous rappelle que vous êtes directeur de recherche CNRS au CERI. Thomas Posado, qui était avec nous en duplex depuis les studios de nos confrères de France Bleu à Aix-en-Provence, que nous remercions. Thomas Posado, qui est docteur en sciences politiques. politique à l'Université Paris 8, chercheur associé au laboratoire culture et société urbaine du Centre de recherche sociologique et politique de Paris, et Alain Diekhoff, directeur du CIRI, le Centre de recherche internationale de Sciences Po, et directeur de recherche CNRS. Et cet ouvrage que vous avez dirigé, Alain Diekhoff et Christophe Jaffrelot, Populismes au pouvoir, aux presses de Sciences Po. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Victor Hull. Demain, Géopolitique sera consacré aux violences faites aux femmes et en particulier sur ce que les sociétés auraient à gagner en ne tolérant plus les violences sexuelles dont les coûts psychotraumatiques et économiques sont absolument astronomiques. À demain.